et la production d'un certain nombre de composants, et notamment les compresseurs qui sont fabriqués en Asie. Aujourd'hui, environ 50% de la chaîne de valeur seulement est française. La filière souffre aussi d'une pénurie de compétences. Face à la demande croissante des professionnels, la Solive, qui forme au métier de la rénovation énergétique depuis 2021, vient d'ouvrir une nouvelle formation d'installateurs de pompes à chaleur. Mais il va falloir accélérer pour tenir les objectifs. Enfin, si les pompes à chaleur diminuent effectivement la consommation énergétique chez les ménages, pour fonctionner, elles requièrent une plus grande consommation électrique. Si on remplaçait toutes les chaudières fossiles par des pompes à chaleur quand c'est possible, le système électrique ne tiendrait pas, alerte Alexandre Joly. Dans le bâtiment, remplacer tout le gaz par des pompes à chaleur nécessiterait l'équivalent de 10 réacteurs nucléaires supplémentaires si on ne fait pas d'isolation. Une solution intenable, car à l'heure de l'électrification massive de tous nos usages, la mobilité, l'industrie, il va falloir prioriser. L'expert regrette ainsi que le président n'ait pas mentionné les autres technologies disponibles et tout aussi efficaces, le solaire thermique, deux fois plus efficace en termes d'énergie que le solaire photovoltaïque. La géothermie profonde et plus globalement les réseaux de chaleur sont autant de solutions qui doivent être défendues, mais qui sont aujourd'hui sous-valorisées. Elles contribuent pourtant aussi à notre souveraineté. Notre Alexandre Joly. Donc là, je fais un petit commentaire. Effectivement, c'est toujours hein, quand c'est toujours la technologie qui est mise en avant, les solutions techniques et pas les solutions moins valorisantes en capital. Je ferme la parenthèse. Si on regarde les objectifs à 2030, sans surprise, seules les pompes à chaleur et dans une moindre mesure la biomasse suivent le bon rythme. Très loin derrière, le solaire thermique, le biogaz et la géothermie profonde accusent un important retard selon les estimations du cabinet Carbone 4 qui a comparé le rythme de croissance de ces dernières années à celui qui nous permettrait d'atteindre les objectifs. Allez, enfin, dernier article rapide sur avec Reporter du 10 octobre. Sur l'intelligence artificielle. Nouveau gouffre énergétique, point d'interrogation. Dans un texte publié le 10 octobre dans la revue scientifique Joule, le chercheur Alex de Vries, actuellement doctorant à l'université Vries d'Amsterdam, alerte sur les conséquences du recours grandissant à l'intelligence artificielle sur nos systèmes énergétiques. Lors de leur phase d'entraînement, les outils d'intelligence artificielle, comme ChatGPT, ont besoin d'être nourris de larges bases de données, explique le chercheur. Bloom, un grand modèle de langage capable de générer du texte en 46 langues, a ainsi consommé autour de 433 MWh d'électricité, soit l'équivalent de la consommation annuelle de 40 foyers états-uniens au cours de sa phase d'entraînement. La phase de fonctionnement est également extrêmement énergivore. Avec 195 millions de demandes quotidiennes, ChatGPT requiert en moyenne 564 MW par jour, soit au plus 2,9 Wh par demande. Le chercheur estime que si Google avait recours à l'intelligence artificielle pour répondre à chacune des demandes de son moteur de recherche, ça requerrait 29 TWh d'électricité par an, soit la consommation annuelle de l'Irlande. Compte tenu des coûts élevés d'approvisionnement en nouveaux serveurs, ce scénario semble improbable à court terme, précise-t-il. Mais d'ici 2027, selon des projections, la consommation annuelle mondiale d'électricité en lien avec l'intelligence artificielle pourrait atteindre des sommets 85 TWh. Cette envolée possible met en lumière le fait que nous devons être très attentifs à ce pourquoi nous utilisons l'intelligence artificielle, déclare Alex de Vries dans un communiqué. Elle est énergivore. Il ne faudrait donc pas l'utiliser pour un tas de choses dont nous n'avons pas vraiment besoin. Et sur ce sujet, puisque c'est la fin de l'émission, je voulais mettre en avant le dernier numéro de L'Âge de Fer, F-A-I-R-E, hein, L'Âge de Fer, qui porte justement sur des considérations plus également philosophiques sur l'intelligence artificielle qui fait l'objet d'un dossier central. Voilà, l'émission Les Mangeux de Terre eh bien, touche à sa fin. La prochaine émission est prévue, comme d'habitude, le premier lundi du mois de décembre à 18h. Cette fois-ci, elle se fera en direct. D'ici là, restez à l'écoute de Radio Libertaire, la plus rebelle des radios, sur 89,4 MHz. On va chanter, on...
Minou ! Où est-ce qu'il est encore passé, ce maudit chat ?
Le monde merveilleux du travail. Sur Radio Libertaire, 89.4 MHz.
Bienvenue dans le monde merveilleux du travail, l'émission du syndicat du commerce et de la restauration de la Confédération nationale du travail, animée en direct, sans retenue ni complaisance, chaque premier, troisième et cinquième lundi du mois par ses militants sur leurs 8 heures de loisirs quotidiens pour la diffusion de l'anarcho-syndicalisme et du syndicalisme révolutionnaire. Édito du lundi 6 novembre 2023 du Monde Merveilleux. D'après, à qui et à quoi servent les instances représentatives du personnel dans les entreprises aujourd'hui ? Telle est la question que nous nous posons sur les IRP. Les IRP, instances représentatives du personnel, avant 2008, c'était la croix et la bannière pour les syndicats non frappés d'irréfragabilité, mais on faisait du syndicalisme. Dans les entreprises, il fallait prouver sa valeur, avec une représentativité acquise par les résultats électoraux du premier tour des élections professionnelles. Fini le militantisme, fini les classes. En tout cas, c'est une question qu'on peut se poser. Pour évoquer les modifications du Code du travail de 2008-2018, les bouleversements juridiques et les implications pour les syndicats de la CNT, nous accueillons Vincent, du syndicat de la presse et médias culture spectacle, CPMCS, et Greg, représentant du personnel, avec qui, et lui aussi sur les listes CNT.
Tout à fait.
Voilà. Avec qui nous allons débattre, mais tout de suite dans le monde merveilleux du travail. Non, il n'y a pas de chronique aujourd'hui, il n'y a pas de billet d'humeur. Et on vous passera de la musique en attendant qu'Eric arrive, puisque c'était son choix musical. On va présenter tout de suite les invités. Alors, on va commencer par Vincent. Mais Vincent, vous l'avez déjà attendu la semaine dernière, chers auditeurs, chères auditrices.
Il n'a eu aucune pression pour revenir cette semaine.
Voilà, donc il va nous parler des IRP. Lui, il est élu. Enfin non, il fait partie du syndicat La Presse et Médias.
Tout à fait. Et puis c'est mon deuxième mandat. Et du coup, moi, j'ai pu voir la différence entre, à l'époque, CE, DP, etc., etc. Et CSE, tout en un.
Voilà. Et Greg.
Bonsoir.
Salut Greg.
Salut, salut.
À toi, tu es sur une liste. Alors toi, tu te présentes actuellement sur une liste CNT.
Alors non, j'ai été élu pendant 4 ans là sur la liste SIP-MCS, donc la CNT, donc dans notre société avec Cédric. Et donc là, du coup, je quitte mon mandat. Je ne vais pas être élu parce que du coup, en fait, ça fait quelques mois déjà que je suis plus sous contrat et du coup, je risque de reprendre assez tardivement. Donc là, du coup. Vu que les élections durent 3 ans, si je reprends dans 1 an, ça va être un peu compliqué. Quoi.
Précisons une chose, c'est qu'en fait, on est intermittent du spectacle dans notre branche et dans cette société. Et du coup, sauf si protocole d'accord et préélectoral bien précis indiquant qu'il peut y avoir des ruptures de contrat très rapidement, en fait, une fois que le contrat est rompu, on n'est plus élu.
On perd son mandat.
Exactement.
Ouais. Voilà. Donc, on va peut-être se mettre une musique quand même, parce que Eric est absent, mais ça va nous détendre, et puis on va en quiller directement. Donc, c'était le choix d'Eric. Une musique. We'll be right back.
Vous écoutez l'émission du Monde Merveilleux du Travail sur Radio Libertaire 89.4 et c'était Little Richard avec Keep On Knocking.
Ah, puis c'est mieux quand c'est Bénédicte qui fait les désannonces, parce qu'au moins on sent qu'elle respecte la langue, hein, quand c'est pas du français.
Attendez cet accent extraordinaire.
Mais oui. Donc c'était un enregistrement de 57, mais en fait le morceau est sorti sur l'album de 58. Mais là c'était pas le même, pas tout à fait le même que... Voilà, Eric est arrivé parmi nous.
Bonsoir.
T'as un mot d'excuse de tes parents?
Ouais, j'ai dans le cas dans le sac. Là.
D'accord, c'est bien.
En 30 exemplaires.
Voilà. Donc tu as Greg à côté de toi, en face Vincent du SIPMCS. Et puis on est là pour parler des IRP. Donc on va commencer, en fin de compte.
Ouais, les IRP c'est une histoire. C'est une histoire qu'on a connue, en partie. Et on va faire court.
Non, c'est des privés de jokes que les auditeurs ne peuvent pas comprendre parce que c'est visuel. Enfin, je trouve que j'ai fait qu'il n'y a personne qui me regarde. Oui, c'est une histoire.
Ouais, c'est une histoire ancienne. Enfin, pas si ancienne que ça finalement. C'est on va dire que la première, c'est Waldeck-Rousseau. Avec l'abrogation des corporations. Alors, plus que l'autorisation des syndicats et la reconnaissance des syndicats, c'est l'abrogation des corporations. Ça, c'est important, parce que les corporations, c'est patronal. Hein, ça sera repris en intermède corporatiste entre 40 et 44. Mais donc avec la reconnaissance des syndicats comme une institution représentative, c'est la première marche vers les IRP qu'on connaît aujourd'hui. Voilà, avec on passe les étapes. Hein, il n'y a pas grand chose avant en fait.
Oui. La discussion avant, on n'était pas allé aussi loin. On était à 2008, c'était bon.
C'est assez fondamental parce qu'en fait, ça va se faire par petits pas et l'essentiel va arriver après à la libération.
C'est vrai qu'il y a eu aussi des CHSCT, les CHSCT qui, dans les entreprises de moins de 300 salariés, ont disparu au profit des comités de sécurité au sein du CSE. Oui. Mais c'est vrai que les premiers CHS sont apparus dans les années 40, où donc c'était sous Pétain, hein, avec un secrétaire nommé par l'employeur. Donc ça n'allait pas trop loin. Hein, d'abord, fallait être bien vu. Je choisissais qui irait. Et ces CHS sont devenus ensuite des CHSCT. Alors CHS, c'est Comité d'hygiène et de sécurité. C'est une commission un petit peu de contrôle. Et quand on a ajouté le CT pour les conditions de travail, c'est devenu un petit peu plus sérieux. Donc, puisque ça avait vocation de... C'est vrai que j'ai pas travaillé l'émission, mais ça me revient. C'est un petit peu des trucs qui me reviennent de...
Il est super.
Ah ouais. Mais je m'attendais pas à remonter si loin en fait. Et c'est du contrôle, mais c'est aussi de la prévention, d'une force de proposition pour améliorer les conditions de travail. C'est déjà pas mal. Et donc ces choses qui ont été acquises, surtout après, à partir de 47. Ont en partie disparu. Enfin, pour les boîtes de moins de 300 salariés, ont disparu. Combien 2017
Ouais.
2015-2017,
c'est ça.
Voilà.
Ouais, ça n'a pas disparu, mais donc ça a été fondu, quoi.
Tu peux dire que c'est disparu, parce que les CSE, ils fonctionnent absolument pas. Ça fonctionne nulle part. Pratiquement.
Oui, je suis d'accord. Ils ont enlevé du temps, ils ont des moyens, bref.
Mais, après, oui, on pourra reparler après comment ça se passe dans ma boîte, tu vas voir que ça a disparu.
Donc, c'est pas anodin, c'est que je veux revenir sur cette date 1884, donc l'abrogation des corpos. Et il y a une autre date, c'est 1936, où là, il y a les délégués du personnel. Ça, c'est important parce que, d'expérience, donc avant 2018 et avant 2008, le délégué du personnel, c'était un mandat qui permettait de faire énormément de travail de terrain. Et quand tu étais à la fois délégué du personnel et délégué syndical, en tout cas moi ça m'a permis de faire énormément de propagande. D'abord par l'exemple. Quand tu es en multisite, tu vas visiter les copains qui sont parfois à 15, 20 dans une autre ville, 30 kilomètres. Mais t'es arrivé d'aller à Lille, d'aller à Strasbourg pour voilà pour. Alors tu vas une fois dans l'année, hein. Mais c'est l'occasion aussi de. Il n'empêche qu'après, en fait, on te voit différemment que qu'à travers des tracts envoyés par. Par mail ou par voilà ou par parce que t'as
par
pas
courrier
le choix. Par courrier et à l'époque même par le biais du délégué syndical qui était à Strasbourg qui était CFTC donc c'est pas le boulot est pas le même hein, très clairement et le contact permanent avec les salariés sur des questions de pratico-pratiques hein, puisque quand on est à moins de 50 salariés on est sur alors nous c'était un site regroupé on était moins de 50 c'est fait exprès hein. C'était fait exprès. Mmh. Et donc, le DP, ben, c'était, ben, il faisait aussi office de ben, CHS, de mini-CHSCT. Hein,
bah, oui.
Donc, et ça, c'était... Et tout, on voyait tout. Hein. Ouais, je passais la journée, de toute façon, dans le magasin. De toute façon, si j'allais à Strasbourg, c'était pas pour une demi-heure. Hein, donc, fallait rentabiliser aussi. Hein, pas... Non, mais voilà. Et pour moi, 36, c'est aussi important... Parce que les DP, et je pense qu'on va, on va en reparler dans l'émission, aujourd'hui, il n'y a plus de DP. Il n'y a plus de DP et leur...
Il y a un socle commun.
Ouais. Ouais, mais il y a un socle commun qui absorbe. Et qui finalement, le patron, lui, comme il a la main, comme Fabrice le dira certainement de son expérience, a la main sur le CSE, bah, tout ce qui le gêne, eh ben, il ne le fait pas fonctionner. Ou il débrouille pour que ça ne fonctionne pas.
Ou il fait le strict minimum légal. Donc il ne saurait pas être gaulé.
Après oui, c'est les élus hein, sur place qui vont faire la différence, qui vont... Alors je pense aussi au secrétaire, puisque le secrétaire fait conjointement l'ordre du jour avec le président du CSE aujourd'hui, c'est au secrétaire, de pointer ce qui relève du, des anciens DP, c'est-à-dire du... pas du contrôle, mais enfin, qui relève du contrat de travail, de la rémunération. Après, les thèmes du CE... Tu vois, c'est... Et puis les volets sécurité, et ça, si c'est pas fait, c'est pas l'employeur qui va le faire. Hein.
Ouais. Il y a pour le CHSCT, je sais plus combien c'est cyclique, on est obligé d'avoir des questions qui reviennent.
Oui, t'en as au moins trois, oui. Ouais. Mais s'il y a personne qui conteste, de toute façon, tu peux contester. Il y a aussi quelque chose qui... Alors, je sais pas, on va peut-être continuer chronologiquement, puis on reprendra après. Là, ça va être fouillis, hein, si on commence à dire ce qu'il y a plus. Suppléants participent plus aux réunions, machin, paf, paf.
2008, c'est une date importante, puisque, en tout cas, pour nous, syndicalistes, c'est qu'il faut participer aux élections. C'est-à-dire qu'à partir de 2008, tu dois faire 10% aux élections, à ta liste, et tu dois être sur la liste aussi en tant que DS, hein. C'est-à-dire qu'après, on désigne DS, mais que tu sois sur la liste et que ta liste fasse 10%.
Alors, hein. Si je peux parler effectivement des positions de la CNT n'a jamais été très favorable à la participation au CE. Donc, on pouvait désigner un délégué syndical. Ça nous permettait d'avoir accès, d'avoir voix au chapitre. Et puis, on pouvait aussi participer aux élections de délégués du personnel. Le CE, c'était plus délicat parce que il y avait des budgets, un budget de fonctionnement, un budget social. C'était perçu, ça l'est toujours d'ailleurs, mais perçu comme de la co-gestion. Et ça posait problème à la CNT. Moi, mes premiers mandats, alors le but, ça a été d'abord de me faire désigner délégué syndical. Entrer au CHSCT aussi. Délégué du personnel. Et effectivement, c'est à partir du moment où il a fallu être présent au premier tour des élections de CE pour pouvoir prétendre désigner un délégué syndical que j'ai commencé à participer aux élections de CE. Sinon, j'y serais jamais entré. J'étais assez opposé, quoi, hostile. Voire hostile.
Oui, d'ailleurs, on pouvait avoir un engagement syndicaliste au sein d'une entreprise, effectivement, sans savoir forcément une élection qui pouvait justement l'entériner, quoi, du coup.
Oui.
C'est ça.
Alors, C'est vrai qu'en 2008, les critères, c'est en 2008 hein, que les critères ont changé de représentativité. Et mais ouais, tu pouvais. Alors, j'ai parlé d'irréfragabilité dans l'édito. Il y avait les cinq syndicats qui étaient. Qui avaient. Comment on dit ? Pour utiliser irréfragable.
Qui n'avaient pas apporté la preuve d'un certain nombre de critères.
Les désignations n'étaient pas contestées. Contestables. Donc, CFTC, CGT, FO, CFDT, CGC, ils désignaient un délégué syndical. Tu fasses de l'activité syndicale ou pas, c'était bon. La CNT, c'était pas pareil. Nous, on faisait de l'activité syndicale, puisqu'on était formés comme ça, et on désignait un délégué syndical. Mais souvent, ça suffisait pas. Donc, il fallait que tu te casses la gueule au tribunal d'instance. Maintenant, ça s'appelle tribunal judiciaire, mais à l'époque, c'était le tribunal d'instance.
Pour une protestation.
Et voilà, donc il fallait envoyer des courriers à la direction pour dire on n'est pas content de ci, on n'est pas content de ça, on veut participer à ci ou ça. On va faire un certain nombre de tracts. Montrer qu'il y avait des sections syndicales conséquentes avec plusieurs. Moi, j'ai la première fois que j'étais désigné délégué syndical, donc on avait fait des tracts. On était, je crois, 7 dans la section et ils ont estimé qu'on n'était pas des syndicalistes, quoi. Et la deuxième fois, donc j'ai accéléré l'activité syndicale 6 mois après. Hein. Et on était plus que 4 dedans. Et bon, après, effectivement, on a eu des résultats aux élections DP. Alors. Ouais, c'était en 2001. Donc, ouais, et donc là, du coup, le tribunal a estimé que oui, on pouvait désigner un délégué syndical et puis on était viable comme. Mais il fallait faire la preuve. C'était pas le cas des autres, hein, qui souvent étaient du côté du patron, qui bouffaient dans la main, là, ça leur posait pas de problème. Mais nous, il fallait qu'on y aille. Donc, du coup, c'est bien parce que quand tu te fais taper sur la gueule par le patron, alors la deuxième fois, je me suis même fait taper sur la gueule par la CGT. Du coup, tu leur dois rien, et puis là, tu peux dire ce que tu veux, et puis taper comme tu veux. Tu sais que.
Cela dit, on le fait quand même s'ils nous tapent dessus.
Ouais, non, mais je veux dire, là, t'as plus rien. Non, mais là, t'as plus rien. Tu vois, ouais.
Puis c'est ça qui tu vas faire, en fait.
Oui, voilà.
Ça va vite, quoi. Parce que il y a le sigle, hein, FO, je sais pas quoi, machin. Et puis, il y a les personnes qui représentent et qui sont dans l'entreprise. Alors, parfois, bon, FO, t'as des idées sur leur histoire, leur même. Bon, après, c'est la personne, le délégué syndical qui est, ou les élus qui sont là, qui sont. Alors, soit tu peux travailler avec eux. Moi, ça m'est arrivé, hein, dans ma boîte. Avec la CGT, j'ai bien bossé, franchement. J'ai bossé avec tous les syndicats, on était tellement étranglés qu'on avait fait front commun. Et puis parfois, tu tombes sur les abrutis et tu peux rien faire, quoi.
Je vois à peu près de quoi tu parlais. Un tout petit peu. Non, c'est vrai que c'est compliqué. Et c'est navrant parce que, enfin, là, je parle du coup, on va pas y aller là-dedans parce que là, je vais parler du CSE, mais c'est vrai que c'est navrant de pas pouvoir avancer sur plein de trucs. En fait, tout ce qui est ancien CE, bah, ça passe crème. On fait une soirée, ouais, nickel, et on a de l'argent, vas-y, c'est parti. Par contre, tout ce qui est délégué du personnel, ou même CHSCT, là, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué, et en face, ça bloque.
Bah, déjà, le CHSCT, c'était pas mal délaissé par les syndicats. Et par les élus du CE et DP, parce que c'était une élection au deuxième degré, donc tu étais élu au CHSCT par tes pairs, hein, CE et DP. Mais comme ça rapportait pas beaucoup d'heures de délégation, souvent c'était « on s'en fout ». C'est comme ça que moi je récupérais effectivement souvent les postes de CHSCT.
Fabrice, vous dites aussi que c'est technique. C'est très technique. Si on veut vraiment s'intéresser à l'activité du CHSCT, enfin de l'ancien CHSCT, c'est la sécurité au travail, les normes, faut se taper des textes complexes, il faut avoir un œil averti sur beaucoup de points dans l'entreprise. Les TMS, les troubles psycho machin, les normes incendies, les évacuations et tout, ce qui fait que rapidement, le commun est débordé par ça.
Et
quoi.
Puis on va pas oublier quand même qu'on a eu un petit truc qui s'appelait le Covid. Et là, du coup, le CHSCT, là, c'était quand même présent.
Ça n'existait plus déjà le CHSCT.
Pas refondu dans le CSE. Quoi.
Ouais.
Et puis l'étape suivante.
Mais n'empêche que le fait qu'il y ait. Moi, j'étais dans une boîte de. Il y a une centaine de salariés. Donc, c'était 5 heures pour le CHSCT. Je peux dire que ça n'intéressait personne. Donc moi j'avais un boulevard. Après c'est du boulot, comme tu dis. Ouais.
Énormément de travail.
Et du coup, c'est vrai que c'est, il y avait aussi le, tout ce qui était sécurité et, au travail, mais est-ce qu'il y avait aussi le, tout ce qui était harcèlement et conditions de travail
Non, excuse-moi, je t'ai interrompu.
Oui, pardon.
Évite de taper.
Juste. Ah oui. Oui, donc harcèlement au travail et conditions de travail. Il y avait effectivement cette partie-là qui était vraiment présente aussi dans le CHSCT.
Il, y avait cette, il peut y avoir ça. Alors ça, ça a été... moi, je n'ai jamais trop connu, parce que c'est vrai que la loi sur, le harcèlement, ça a évolué. Maintenant, on peut... il suffit aujourd'hui que tu... Comment dire ? Que tu dénonces du harcèlement
pour qu'il y ait une enquête.
Pour que... voilà. Alors qu'avant, il fallait que, quand même que tu prouves que tu étais harcelé.
Mais je dirais...
C'était déjà un petit peu plus complexe. Mmh. Et c'est vrai qu'en changeant les lois, en fait, ils ont mis des... Avec l'histoire aussi de lanceurs d'alerte, les employeurs, ils ont mis en place... Bah oui, on va faire des lanceurs d'alerte. Donc, en fait, ils ont réussi à passer outre le CHSCT en mettant des adresses mail pour des DRH ou des trucs auxquels tu t'adresses, enfin tu t'adresses directement à eux. Non, bah, après il suffit qu'il y ait un accord d'entreprise qui prévoit ça et puis voilà, terminé. Hein.
Mais je me demande si c'est pour le harcèlement moral ou sexuel par exemple, je me demande si c'est à mi-chemin entre le CHSCT et le DP quoi en fait au final.
Bah, je sais pas où. Vu que le CHSCT vrai qu'englobe vraiment toutes les.
Non, mais aujourd'hui, mais même, je veux dire, avant, quand c'était pas. Quand on est encore CE, DP, CHSCT, je sais pas où était la frontière là-dessus. Pour du harcèlement moral.
Le harcèlement, qu'il soit sexuel ou moral, ça relevait essentiellement du CHSCT. Mais après, quand t'es dans une boîte où le CHSCT fait pas son boulot, ça peut être le DP ou des membres
du CE.
Après, ça dépend comment tu l'abordes. Le CHSCT, ça va être effectivement sur la c'est la sécurité, mais donc sur le mental, la sécurité au travail. Mais tu peux le faire ça par le biais du DP. Alors normalement, le DP, c'est le contrat de travail, la rémunération. Mais tu peux dire, effectivement, tu vas être touché, donc moins productif. Donc tu vas être peut-être plus souvent en arrêt, tu vas gagner moins d'argent, et puis ça peut être un point, une thématique du CE. Enfin, ça aurait pu être une thématique du CE, parce qu'il n'existe plus, les CE.
Mais c'est possible que nous, c'est pour ça que j'ai une expérience un peu étrange là-dessus, peut-être que notre mandat de DP a été très élargi sur plein d'autres problèmes, c'est pour ça, ok.
Ouais, non, mais si le travail n'est pas fait par une autre instance, t'essayes de récupérer le truc. Hein. C'est, tout simplement. Moi, c'est comme ça que je fonctionnais.
Et puis, c'est des cas qui sont tellement, compliqués et dans l'intime, entre guillemets, que du coup, si le délégué du personnel il est contacté, c'est lui qui va s'en charger au final, je pense. Il ne va pas refiler le bébé.
Ça dépend de la cohésion qu'il y a dans les instances représentatives du personnel. Mmh. Si tu as une bonne cohésion, effectivement, où tu arrives à faire des réunions collectives avec toutes les instances, puis tu dis, tiens, moi j'ai tel problème, un salarié a évoqué tel problème, et ça relève du ACHSCT, tu vas poser la question, ou ça relève du DP, du CE, voilà. Mais c'est rarement comme ça que ça se passe.
Non, ça se passe pas
comme ça. Ça, c'était plutôt affaire à des clans, et puis ne me fais pas chier, moi je suis secrétaire du CE, puis j'en ai rien à foutre. Moi j'ai déjà effectivement donné à des secrétaires de CE des questions très précises, en disant, je veux que tu la poses comme ça. Et puis une fois devant le directeur, il comprenait bien lui que ça allait lui poser problème. On va faire un truc beaucoup plus large, beaucoup plus vague, mais on va pouvoir en discuter. Enfin, c'était fini. Parce que l'important, c'était de poser la question, tu vois, pour avoir une réponse.
Oui, bien sûr.
Donc l'employeur, il avait compris le truc. La secrétaire, elle n'avait rien à foutre. Donc voilà. Donc du coup, la question, ça sert à rien.
Et puis après,
il n'y a pas de cohésion.
Ce genre de harcèlement moral, harcèlement sexuel, machin. On est quand on a l'information en tant que RP. Comme ça, ça s'appelait pas comme ça. C'est vrai que c'est pas aussi prégnant qu'aujourd'hui. Hein.
Ça s'appelait si RP.
Non, mais c'est, le harcèlement, on n'en parlait pas.
Ah oui, c'est plutôt récent, en fait.
Ouais, c'est ça. Il existait, parce que moi, j'ai eu des, c'est de l'interpersonnel, c'est-à-dire que c'est même pas à l'instance, c'est parce qu'on a confiance en toi.
C'est ça.
Parce que t'as fait preuve de, j'allais dire, d'honnêteté dans l'exercice de ton mandat, ou de, voilà, que, on vient te voir, et parfois la personne ne sait pas que c'est peut-être pas à cette instance-là qu'il faut s'adresser, mais, quand t'as ça dans les mains, tu traites, quoi.
Ouais. Tu traites et tu gardes pour toi, c'est ça que je voulais dire. C'est que
ouais,
du coup,
bah oui.
Parce que tu disais d'aller en parler à des commissions. Non, la plupart du temps. Enfin, moi, je parle par mon expérience quand il y a eu des cas comme ça, et on en a eu, hélas. On en a eu plusieurs, et au final, les personnes. Je parle en particulier pour du harcèlement sexuel. Les personnes n'aiment pas trop qu'on aille en parler ailleurs, ce qui est logique.
Bah, oui.
Et du coup, aller en parler dans d'autres commissions, non, ouais.
Non, bah, je dis que c'était pas. Non, ce que je voulais dire, c'est quand il y a une bonne cohésion dans les instances, oui, tu peux envoyer tes doléances dans l'instance appropriée. Mais c'est rarement le cas. Donc effectivement, si, comme dit Eric, les salariés ont confiance en une personne, ils vont se confier à cette personne. Et c'est à toi de te démerder, d'essayer de résoudre le problème.
Ouais, totalement.
Mais, ouais. Alors moi, j'ai pas été confronté à des cas de harcèlement sexuel. Enfin... Ça peut être vite résolu, hein, parce que les. Ouais. Mais en général, les salariés se barrent. Ouais. Quand j'ai interpellé un jour un directeur en disant il y a un mec, il drague cette personne. Quand elle répond pas favorablement, il la traite de pute. Bon, il dit, le directeur disait ouais. Bon, le directeur, il teasait aussi pas mal. Il tease toujours d'ailleurs, parce qu'il est toujours directeur, mais pas dans le même établissement. Il dit c'est de la drague un petit peu poussée. Tu vas faire ça à ta femme, tu vas voir. Un drague poussé, je viens faire ça à la mienne. Non, mais c'est ça, quoi. Se faire traiter de pute parce que tu veux. L'autre, il dit laisse-moi tranquille, je bosse maintenant, mais je veux te sauter. Enfin, bon, bref. Bah, la fille est finie. Alors, en fait, elle s'est fait virer, même.
Ah, oui, d'accord, c'est dans ce sens-là. C'est pas le harceleur qui se faisait virer. Ok, ok.
Bah, il s'est fait virer aussi, mais pour autre chose. Mais oui. Mais après, c'était un directeur. Oh, tu me diras, les directrices sont pas mieux.
Ça arrive aussi.
Elle fait pas du harcèlement sexuel, il faut voir les propos qu'elle tient. Je peux pas dire ça à l'antenne, hein, vous avez tout très chers auditeurs et auditrices. Ouais, mais c'est vrai qu'on est. Bah, quand c'est des bonhommes qui dirigent, bah, ils voient pas le mal. Quoi.
Ou quand c'est un milieu très masculin. Nous, c'est en.
Bah, nous, il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup de choix.
Ah. Ouais, mais ou vice versa, c'est-à-dire que quand il y a peu de femmes, c'est plus compliqué pour elles, du coup, dans un milieu très masculin. Nous, c'est en train de changer en animation, mais c'est vrai que pendant longtemps, ça a été quand même très très masculin comme type de métier. Là, c'est en train vraiment de changer de ce côté-là.
Ouais.
Et il y a toute une batterie aussi de sensibilisation qui sont faites depuis assez peu de temps. Donc il y a souvent en fait une personne qui a le rôle que tu as eu justement.
Oui, bah, c'est simplement d'être délégué au harcèlement sexuel. Donc t'es un peu la personne qu'il faut aller voir si t'as un problème, quoi. Et maintenant, je sais pas si c'est exactement obligatoire, mais il me semble que c'est obligatoire. Il y a des formations qui sont organisées. De ce côté-là, nous, on a vu un truc assez chouette, quoi. Ouais.
Tous les employés en fait de la société étaient obligés de passer par un
stage de sensibilisation.
Un stage de sensibilisation, effectivement, il y avait une batterie de 50 questions et en fait toutes les questions étaient orientées justement pour savoir effectivement gérer ce qui est admissible ou pas. C'est-à-dire que il y avait plein de cas de figure qui étaient présentés et en fait tous les salariés étaient invités à prendre position pour savoir effectivement qualifier de harcèlement, de drague un peu lourde ou donc vraiment réussir à qualifier ce qui était vraiment légal ou pas. Voilà.
Les différents degrés, c'est-à-dire que tu pouvais avoir du harcèlement sexuel, tu pouvais avoir de l'agression sexuelle, puis bien sûr du viol forcément, mais il peut y avoir aussi ce qui avait été défini par la personne qui nous avait formé comme du harcèlement sexuel d'ambiance, entre guillemets. C'est-à-dire que si tu rentres dans une pièce où il y a des posters de cul partout, les demoiselles, la plupart du temps, ça va pas forcément les amuser, quoi. Et ça, c'est des choses dont...
Poster de cul féminin.
Féminin, j'entends, oui. Je pensais à un milieu assez machiste. Alors, parce que c'est intéressant ce que tu dis là. Je ne sais pas pourquoi, dans notre milieu, les animateurs aiment bien dessiner des bites. Voilà, je ne sais pas pourquoi, j'ai pas de réponse là-dessus, c'est encore un mystère pour moi. Et du coup.
Il faut aller voir un psy, hein.
Les demoiselles aussi, les messieurs.
Mais pourquoi pas.
Et ce que je veux dire, c'est que ça peut être du harcèlement sexuel d'ambiance. Parce qu'il y a des gens qui vont trouver ça rigolo, mais il y en a d'autres qui vont vraiment chier, il y en a qui ça va carrément oppresser, quoi, d'une certaine manière. Voilà. Donc,
Ouais. Et il dessine ça où?
Partout.
D'accord. C'est le psy, hein, il a raison. Ouais, j'ai pas pour habituellement.
Mais j'ai jamais compris. Non, mais c'est vraiment un truc d'animateur. Alors, je sais pas. Bon. J'ai pas la réponse.
C'est un environnement assez sexualisé, du coup, c'est vrai que c'est assez surprenant, mais c'est vrai que du coup, il y a aussi des gens qui font des impressions 3D de phallus en 3D, quoi, des trucs. C'est assez bizarre, oui, effectivement. Donc, ça, c'est un cadre qui peut être
quelle production
assez propice, évidemment, à un comportement un peu déplacé, un peu voilà, outrageant, quoi.
C'est vrai que moi, mes collègues, c'est pas des bons dessinateurs, je dis, mais c'est vrai que les monts de charge. Il y a pas mal d'inscriptions. Il y a de tout. Il peut y avoir des bits aussi.
Oui, voilà.
Des allusions. Bon, il n'y en a pas énormément que ça. Hein. Plus des trucs.
Ah non, il y en avait quand même pas mal. Hein. Vraiment, il y en avait pas mal. Et je pense que la sensibilisation a aidé justement à ce que les gens se rendent compte. Bon, ouais, bon, c'est peut-être un peu puéril. Et puis ça peut. En fait, le fait que ce soit puéril, c'est pas grave, mais que ça peut être déplacé pour certaines personnes et ça peut être gênant.
Quoi. Alors, moi, j'ai lu pas mal de bouquins, de BD de Gottlieb, les Ragnagna, les.
Ralovli.
Ralovli, ouais. Ah, c'est assez. Après, bon, c'est un contexte et une époque, c'est volontairement provocateur aussi. C'est. Oui, je pense que ça aurait pu être dans ce sens-là aussi, dans votre boîte. Dans vos boîtes. Non.
De nouveau, j'ai pas la réponse. Vraiment, je ne sais pas. Non, parce que ça soit vieux ou jeune, après, c'est des trucs qui sont transmis peut-être, mais. Parce que les Gottlieb, maintenant, c'est vieux. Hein.
Ouais.
Les jeunes, ils ne connaissent même pas.
Hein. C'est la littérature de ma jeunesse.
Ah oui, non, mais je te suis, mais.
Salut jeune. Ah bah tiens, on va se faire une petite pause musicale là-dessus. On va s'écouter les Cramps pour faire plaisir à Greg.
Oh ouais. Yeah.
6 mois, lui.
Je la porte.
Il attaque même l'inspection du travail, dit qu'elle fait pas son boulot.
À l'antenne.
Je suis à l'antenne. bien sûr.
De toute façon, c'était raccord. Hein, c'était raccord.
Bah, oui,
c'est ça.
Il ne fallait pas ouvrir les micros. Vas-y, Bouboule.
Docteur Fokker, voilà. Des crampes.
Voilà. Ah, t'as pas écouté, Greg, mais est-ce que ça t'a plu?
Très très bien aussi.
Voilà. De toute façon, c'était les crampes, même si c'est nul. On dit que c'est bien parce qu'on aime bien les crampes, c'est comme ça. Pas vrai, gros?
Ouais,
il rendort toi.
J'acquiesce. Les crampes. Bah oui, c'est
mais vrai. Mais parle dans le micro.
Ouais, ouais, mais les crampes, je les ai vues en concert, bien sûr, il y a longtemps. Je vois pas.
Vous l'avez vu tout le monde.
Souvenir. Ah, j'ai fait pas mal de concerts dans ma vie.
Hein. Ouais, il n'est pas un petit peu mégalo.
Ouais, pas mal de concerts dans ma vie. Non, à une époque où il n'y avait pas beaucoup de lieux de concert. Et bah, voilà quoi. Il n'y avait pas non plus. C'était l'époque des tribus, un peu sauvages. Un peu.
Il est encore plus vieux, lui. Bon. Ah. On va revenir à nos petites affaires.
Oui.
Donc on était en 2008, il y a eu un glissement. Les institutions qui depuis 82, effectivement, avaient pris de... servaient quand même bien la représentation du personnel et veillaient un petit peu à la bonne santé des salariés. Ouais. On prit un petit coup dans l'aile quand même à partir de 2008.
Ouais. 82, tu fais bien parce que c'est les lois Auroux hein, qui ont permis ouais. de... C'est aussi un...
Bah, c'est là qu'on est passé du ouais. CHS au CHSCT. Ouais. Oui, il y a eu pas mal de... Ça a été une bonne période jusqu'à 2008. On a commencé à changer les articles du Code du Travail. Je ne sais plus sur quoi on est revenu non plus. Il y a eu en 94, déjà, il y a eu la création des DUP. C'était déjà... c'est la délégation unique du personnel dans des boîtes de moins de 100 salariés.
Moins de 50. Ah, je sais,
moins de 50.
Moins de 50.
Voilà. On pouvait déjà fusionner DPCE. Ouais. Et CHSCT, je crois même. Je sais plus. J'ai un doute. Bah non, de toute façon, moins de 50, il n'y avait pas de CHSCT. Ouais. Donc DPCE, c'était délégation unique du personnel. Non, ça devait pas être. C'était pas moins de 50. S'il y avait un CE, c'était au moins 50. Bref. Il y avait déjà possibilité de faire des DUP.
Je sais pas si c'était.
Et ces DUP, ça s'est généralisé en CSE, Comité Social et Économique, en fin de compte.
C'était gouvernement...
Je ne me souviens plus de quel homme politique a mis ça en place, je ne me souviens plus. A proposé ça et qui a été adopté. Bon, enfin bref, il y a eu quand même ces petites choses-là.
Moins de 200.
Moins de 200, oui.
Moins de 200.
Et en 2008, donc, il y a eu pas mal de... Les changements. Ah, bah, déjà, les critères de représentativité ont changé. Ça fait que là, s'il y avait le respect des valeurs républicaines, que personne n'a jamais réussi à définir, en fait.
Ça consiste en quoi? Ça paraît un peu anachronique, nébuleux. Enfin, les valeurs républicaines, du coup, s'il y avait un critère.
Mais non, il n'y a pas de critère. Alors, on va t'apprendre un truc. Moi, j'aime bien le répéter sur les antennes. Le premier syndicat qui a été en 2009 attaqué, national, hein, attaqué sur les critères de représentativité, c'est le nôtre. Putain, j'en suis super fier. Ça faisait super chier, mais ça coûte. Hein.
Ah, ça coûte
parce que c'est. Au début, c'est le tribunal d'instance, puis après, ça va en cassation. C'est le tribunal de. C'était quoi?
On n'est pas passé par l'appel.
Non, c'est. Pas la cassation. Bon, enfin, bref, c'est un autre niveau où là, ça douille un peu. Et. Donc voilà, on était. Puis le deuxième, ça a été le CIPMCS.
Oui, mais ça nous a essoré financièrement quand même.
Oui. Bah, et c'est l'État qui vous attaque
Non, alors c'est un patron.
Un patron.
C'était Franprix. C'était Baude.
Baude.
Ouais, monsieur Franprix. Mmh. Les entrepôts, en fait. Et.
Sur les valeurs républicaines, sur quoi?
Ouais, sur le fait qu'on respectait pas les valeurs républicaines, parce que, on est syndicaliste révolutionnaire, on est pour l'abolition de l'État, du patronat, du salariat, mais le fait d'être pour l'abolition de l'État, et la partie adverse estimait que l'État, c'est la République, c'est le gouvernement, donc c'est la République, et donc on est anti-républicain. Sauf que, bon, on dit, nous, c'est la République bourgeoise qui nous pose problème. Et en fait, ils ont fini par conclure que on va pas prendre de décision dans la mesure où les syndicats respectent la charte d'Amiens. Parce que dans la charte d'Amiens, il y a aussi le fait de l'abolition de l'État, en fait. Hein. Voilà, dès qu'un syndicat se revendique de la charte d'Amiens, ça respecte les valeurs républicaines. Mais ça a été chaud, quoi. Parce que ça aurait pu après tous les partis politiques, genre Anar, machin, qui sont aussi pour l'abolition de l'État, auraient pu être dissous, en fin de compte. Mais ils n'ont pas voulu aller trop loin, quand même. Ils sont pas.
Ah bah, puis déjà
ça posait quand même beaucoup de problèmes au niveau de la démocratie. Enfin,
oui, mais de toute façon, il n'y a pas de définition de la République.
Mais non, il n'y avait pas de définition de la République.
Comment on peut être anti-républicain si on n'a pas défini ce qu'est la République.
Si tu dis, tu critiques... c'est un petit peu la position de Macron aujourd'hui. Hein. Alors, il n'attaque pas là-dessus. Mais le fait de... Tu manifestes dans les rues, ou contre les méga-bassines, donc tu es contre la démocratie, et puis tu es un éco-terroriste, voilà, c'est... Ah, dis pas t'es anti-républicain, mais t'es éco-terroriste.
Le droit de grève, de toute façon, le fait de manifester effectivement dans la rue maintenant, c'est vrai qu'il est tellement contesté, de par la présence policière et tout ce qui est effectivement bavure à répétition et le contexte vraiment anxiogène effectivement des manifestations actuelles. Du coup, c'est vrai qu'il y a vraiment aussi ce côté légal qui est le droit de manifester, de grève, tout ça qui est complètement en rapport avec les... avec la loi, et du coup c'est vrai qu'après l'État lui-même devient vraiment lui un peu anti droit, quoi, quelque part. Donc, rien n'est vraiment tout si clair, si établi.
Alors là où je te reprendrais, parce que je suis pas d'accord, c'est pas des bavures qui font les flics. Pour moi, c'est pas des bavures, c'est volontaire, casser la gueule aux gens. Oui, c'est pas une bavure.
Ça participe en fait d'une action sur le double front. C'est-à-dire que les lois de 2017-2018, elles ont quasiment... c'est un handicap pour le syndicalisme. Pour l'action syndicale, c'est un véritable handicap, puisqu'on doit passer par le truchement d'élections. Nous, ça nous a changé la vie.
Alors c'est là où on en était tout à l'heure, effectivement, quand je disais que moi, je participais qu'aux réunions, qu'aux élections de DP, et on se faisait désigner des délégués syndicales, ça n'a plus été possible après, parce qu'il fallait absolument faire de la cogestion. Et moi, ça me posait un problème éthique aussi. Hein. Dans le fond, parce que j'ai jamais été... pas été préparé à ça.
Non, puis c'est pas ce pour combien.
C'était pas mon objectif non plus. Et puis oui, c'est pas dans notre.
Et donc après avoir en quelque sorte anesthésié les IRP avec surtout le délégué syndical, la suite c'est comment s'exprimer aussi dans la rue. Il faut aussi anesthésier la rue. C'est-à-dire que il y a une double. C'est un fusil à deux coups. Hein. Puis je dirais même à trois coups. Le boxon qui est actuellement dans les assemblées les assemblées de la République, le Sénat comme l'Assemblée nationale, c'est aussi une façon de... Alors on se plaint, on se dit la démocratie parlementaire ne fonctionne pas, mais c'est voulu aussi. Hein. Oui. À partir du moment où plus rien ne fonctionne de dit représentatif, entre guillemets, il y a un seul bonhomme qui va être lui représentatif. Attendez, vous m'avez élu, combien de fois il l'a répété? Vous m'avez élu, les mecs. Maintenant, vous allez manger. Enfin, il dit pas ça comme ça, hein, parce qu'il est... Mais voilà, il a les pouvoirs. Il a le pouvoir. C'est pas compliqué. Hein. Oui. Et le prochain va rien changer. Hein.
Ou la prochaine. Oui. Donc, t'as vu que tu déprimes tout le monde autour de la table, hein? Plus personne ne veut rien dire. Il nous a coupé les pattes. Ça y est, on a plus qu'à le suicider. Ça sert plus à rien. J'arrête le syndicalisme.
Simplement. En fait, c'est le constat. Après, c'est comment on réagit, c'est comment on fait du syndicalisme avec toujours nos idées, mais va falloir prendre le bâton merdeux différemment, quoi. Il y a ça aussi. C'est à un moment donné, faut dire comment on saisit. Si dans la rue, ça devient dangereux et au point qu'on se fait matraquer la gueule par les CRS sur ordre. Hein. Et puis dans les entreprises, de toute façon. C'est du flutio toute la sainte journée, et que les IRP, bah, de toute façon, c'est le patron qui décide, hein, donc, grosso modo. Bah oui, parce qu'il y a le lien de subordination, tu fais un truc de travers, tu te fais virer. Enfin, il y a ça aussi. Faut jamais oublier que le non-engagement, ça participe aussi d'une pression, enfin, il y a une pression psychologique énorme, hein. Voilà, tu vas bosser pour aller bouffer, hein. Je vais pas bosser pour me faire plaisir.
Et puis dites-vous qu'il y a les gens qui ont des contrats, et puis il y a les gens qui ont des contrats précaires.
Oui.
Les intermittents du spectacle, on n'a pas besoin de te virer. Mmh. On te fait pas signer un contrat la prochaine fois, c'est tout. Mmh. Ah, c'est ballot. Donc c'est encore plus compliqué.
Mmh. Ben, on a le même problème avec les CDD, nous.
Oui, bien sûr, bien évidemment. Oui.
Contrat à durée déterminée, effectivement, hein, t'as intérêt à te tenir à carreau. Alors, c'est vrai que c'est Une fois que tu t'es tenu à carreau, après que t'es en CDI, bah, ça va. Tu peux faire ce que tu veux. Vous, les intermittents du spectacle, c'est autre chose, parce que vous êtes tout le temps, en fait,
en CDI.
En CDD, pardon.
Bah, c'est du CDD d'usage, d'ailleurs.
Ouais.
Ouais, c'est ça. C'est en effet compliqué. Après, les patrons, ils disent, non, mais vous savez, il n'y a pas de blacklistage, Si.
Ils peuvent pas le dire. Voilà. Sinon, c'est des discriminations. Tu peux les attaquer.
Les studios d'animation se téléphonent entre eux pour savoir ce bonhomme-là, il bosse bien. Ouais, méfie-toi un peu quand même. Donc, oui, il y en a. Il y en a bien évidemment. Et puis, en plus de ça, ne serait-ce que, vu que tout le monde bouge, bah, les gens qui gèrent aussi les équipes bougent aussi. Donc, ça peut être compliqué parce qu'on peut ramener de l'information de ouais, mais lui, il faisait ça dans l'autre entreprise où j'étais avant, méfie-toi. Donc, même si c'est pas les patrons qui se téléphonent entre eux, il y a aussi d'autres moyens d'avoir des informations quoi, sur les gens. Bref, donc c'est compliqué encore plus pour les intermittents du spectacle ou, comme tu disais, les gens en CDD, quoi. Les précaires en général. Quoi.
Bon, on n'a pas encore touché le fond. C'est le côté optimiste maintenant.
Totalement, voilà.
On n'a pas touché le fond. On n'est pas au contrat zéro heure, un peu comme les Anglais. Hein, putain, saloperie d'Anglais. Et là où on vraiment. On t'appelle une heure après pour te dire attends, demain matin, tu travailles, tu commences à 8h, c'est machin. Combien de temps je travaille? Ben, tu verras. Si je vais gagner, ben je sais pas. Enfin, voilà, on en est là, quoi. En Angleterre, c'est assez terrible. Hein. Alors bien sûr, ils peuvent dire que oh non, on a fait baisser le chômage. Bah, si tu comptes pas les gens qui travaillent une heure par semaine, bah ouais, tu fais baisser le chômage. Mais bon, est-ce qu'ils bouffent avec ça? Je suis pas sûr. Donc il y a l'espoir.
Mais je sais pas combien de temps. Mais ouais, donc bah, on parlait du CHSCT, la disparition du CHSCT. Tu disais que ça fonctionnait quand même, toi, Vincent.
Nous, alors bon, c'est mon expérience bien évidemment, mais ouais, nous ça continue à fonctionner au sein du CSE. On avait des réunions fréquentes, pas trop, hein, faut pas non plus pousser, juste le minimum légal, mais on avait quand même des réunions pour discuter des différents soucis avec l'ordre du jour, tout ce que tu veux. Après, c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, lors du Covid, là, on a eu beaucoup plus de réunions, en particulier pour mettre tout en place au début. Là, c'était beaucoup plus fréquent, ce qui est logique, quoi. Ça m'a semblé fonctionner. Mais de nouveau, moi, j'ai un peu alors, surtout sous le CSE, j'ai l'impression d'avoir un peu mélangé peut-être du délégué du personnel. Je faisais partie des deux. Et au final, je changeais pas forcément la casquette, quoi. Mmh. J'avais les deux casquettes sur la tête et puis voilà, quoi. Encore plus sous le CSE, forcément, puisque tout le monde avait toutes les casquettes. Et puis ce qu'il faut.
Déjà, je pense qu'il y a un manque de formation. Enfin, il y avait déjà, à l'époque où on était scindé en CE, DP, CHSCT, il y avait un manque de formation des élus. Surtout les délégués syndicaux, les délégués syndicales. En fait, ils sont souvent imbus d'eux-mêmes et ils estiment qu'ils n'ont pas assez à former. Et en fait, ils confondent toutes les instances. Alors, je me permets de dire ça, parce que j'étais aussi un petit peu formateur de représentant du personnel. Donc, moi, j'ai su quelle était la différence d'une instance à l'autre. Et je voyais que c'était du cran n'importe quoi pour. Aujourd'hui, alors, je sais. Là, j'ai pas. Alors, je suivais aussi des fois, ça m'est arrivé de suivre des formations, d'en donner. Là, je n'ai pas suivi pour le CSE, mais quand je suis en contact avec des formateurs, j'ai de sérieux doutes sur ce qu'ils apprennent.
Sur leur compétence.
Sur leur, ouais, sur leur compétence. Franchement, on sent que c'est plus, ils sont plus là pour ramasser du fric, parce que surtout, à l'époque du Covid, bah, ils n'ont pas pu former, donc là, ils essayent de ramasser un maximum. Et bah, les formations, ça me paraît un petit peu léger. Par rapport à ce que moi, j'ai prodigué, ça me paraît super léger. À part dire, vous avez le droit de prendre des heures de délégation, vous faites ce que vous voulez. Tout ça pour dire quoi ? Je sais plus. À chaque fois, je pars dans des divagations. Il y a un manque. Bon, ouais, je pense qu'il y a un manque de formation. Et là, le fait que tout, que l'instance soit, enfin, toutes les instances ont été fusionnées en une seule. Je crois que les représentants du personnel savent même plus où ils en sont, quoi. Donc, ils ont tendance. Moi, je trouve, hein, qu'ils ont tendance à se fier un petit peu à l'employeur. Ils laissent faire l'employeur. Qui, bon, on fait une réunion. Il y a des réunions obligatoires. Donc, il y a six réunions obligatoires dans l'année. On fait ces six réunions. Et puis, on donne pas toutes les infos. Après, il faut beaucoup de rigueur, hein, pour le ou la secrétaire d'un CSE, à demander les documents, à planifier les réunions, à constituer les ordres du jour. Si tu fais pas ça, tu te fais bouffer par l'employeur. Hein. Si tu te renseignes pas non plus sur les obligations, donc les visites d'entreprise, les documents uniques à préparer, à consulter, les papripacs, les plans de prévention, les trucs.
Bah, d'où le souci quand il y a de nouveau des élections et qu'on change parce que les gens sont lessivés, ce qui est logique parce que c'est crevant, bah, il y a une perte en effet de formation, une perte de connaissances et de compétences. Quoi. Il faut tout refaire à zéro. Il faut que c'est pour ça que c'est bien qu'il y ait des anciens qui restent dans les listes et qui reviennent de nouveau, quoi.
Alors, ce qu'il y a eu avec aussi les lois travail, les lois de Macron, les lois travail, je ne sais plus ce qu'il y a eu. En fait, les délégués syndicaux dans les entreprises de moins de 300 salariés, il est passé de 10 heures de délégation à 12. Et ça, c'était on a accordé 2 heures aux délégués syndicaux supplémentaires, mais en revanche, on a passé les heures des, bah, on est passé au CES, hein, il me semble, CSE, pardon. Je me demande s'il n'y a pas eu un truc avant où on a perdu des heures.
C'est ça, maintenant. Du CSE. Oui, d'accord. Avant,
de toute façon, avec les CSE, maintenant, tu as plus que 21 heures pour tenir ton mandat. Alors qu'avant, tu avais 20 heures pour le comité d'établissement, quand tu avais les DP, tu avais une quinzaine d'heures. Je pars toujours pour les entreprises où il y avait au moins 100 salariés. Hmm. 15 heures pour les DP, 4 heures, 5 heures pour les CHSCT et 20 heures pour le CE. Plus les 12, 10 heures du délégué syndical. Ce qui faisait quand même une cinquantaine d'heures par mois. J'ai eu, hein, ça.
Un bon tiers du temps, quand même.
Ah ouais, c'est quelque chose.
Appréciable.
Maintenant, tu as... on va enlever le délégué syndical. Tu as pour faire tenir ton mandat 21 heures, ce qui n'est pas beaucoup quand tu veux faire quelque chose de sérieux. Et pas assez. Si tu passes ton temps, à l'étude des dossiers et à mettre en place effectivement quelque chose de sérieux dans la boîte, 21 heures, c'est vraiment pas beaucoup.
Ouais, et puis pour peu que tu aies une affaire, je qualifierais ça d'affaire un peu problématique, où tu as quelqu'un qui vient te voir pour te dire j'ai un vrai problème, bah là t'exploses tout, quoi. Parce que les 21 heures, elles y passent très rapidement.
Ah, nous, à la CNT, on a cette capacité de pouvoir travailler en dehors, sur nos heures de loisirs. Eh oui. Mais c'est vrai que tout le monde n'est pas. Tout le monde n'a pas envie de ça.
Et puis être contacté sur le téléphone personnel ou par mail ou juste comme ça les week-ends, etc. Enfin, ce qui est logique aussi. La personne qui se fait harceler, que ce soit moralement ou sexuellement, bah, elle ne va pas forcément t'en parler sur le lieu de travail, quoi.
Ouais.
C'est compliqué. Et on a tendance à lâcher assez rapidement le téléphone ou des choses comme ça pour pouvoir en parler sereinement et voir l'évolution des problèmes, pouvoir conseiller au fur et à mesure. Et en effet, tu comptes pas tes heures. Enfin, très rapidement, tu dépasses, en effet. C'est sûr.
Mmh. Ah. Tout est fusionné du CE pour... au CSE. Et du coup, c'est vrai qu'après, avec moins d'heures, du coup, c'est vrai que ça reste vraiment très très compliqué de pouvoir vraiment assurer dans toutes les
bah, c'est pour ça que quand il n'y a pas une super cohésion au sein du CSE et qu'il n'y a pas un partage justement des tâches, ceux qui tiennent, parce que ça arrive aussi, hein, que effectivement, puisque tu as une section syndicale qui remporte l'élection, qui a le plus d'élus qu'une autre, ceux qui ont moins d'élus, disent, démerde-toi tout seul. Et du coup, les trois élus qui sont pas forcément tous les mêmes compétences, hein, ou le même militantisme, et ben ils se retrouvent à gérer tout un tas de trucs, et je peux comprendre que ça soit assez difficile.
Ah, puis ce qui est pernicieux en plus de ça, c'est que il y a un autre type de répartition entre guillemets de travail, c'est-à-dire que tu vas avoir une liste qui va s'engager plutôt côté CE, je dirais, à faire des soirées, des choses comme ça. C'est la liste dont les gens vont se souvenir, tu vois. Ah ouais, c'est Dédé, il a organisé le bowling. Et au final, ceux qui triment derrière et qui sont là vraiment pour faire avancer les choses, pour faire respecter les droits, pour aider les employés qui sont vraiment dans le caca, bah eux, oui, on va toucher la personne forcément qui a des soucis, ou ceux qui ont vraiment lu le PV, mais dans l'absolu, qui c'est qu'on va garder en tête, c'est d'aider le bowling.
Ce qui est le plus visible, c'est effectivement toutes ces activités dites sociales où tu distribues des biscuits, des boissons, des bons, des participations au bowling, des fêtes, des festivités, des trucs. Ça, il y en a qui ont compris, hein, que ça marchait comme ça. Donc, ouais, ça, c'est très visible. Mais effectivement, tout le travail sur la sécurité, sur les risques psychosociaux, tu as dit les risques machin, les troubles musculo-squelettiques, donc tout ce qui va être lié à la sécurité au travail, au confort, enfin, bonnes conditions de travail. Tout ça, c'est dans les réunions que ça se passe, effectivement, si on ne lit pas les PV. Et si les PV ne sont pas bien faits, surtout, mais si même s'ils sont bien faits, il faut les lire, bah, personne n'est au courant. Parce que ce n'est pas visible, ça c'est de l'invisible en fait.
C'est ça. Et puis du coup, qui se fait réélire la fois d'après ?
Alors, c'est aussi aux représentants du personnel de faire savoir. La responsabilité du militant, c'est aussi de faire savoir. Tu fais ton propre compte-rendu. Je crois qu'on en a parlé la dernière fois.
Oui, tout à fait.
C'est de dire, voilà, on a évoqué ça à telle réunion, puis ça, tu le diffuses. Tu l'affiches sur ton panneau, tu le diffuses directement. Après, c'est ça aussi l'action militante. C'est comment tu fais savoir ce que tu apportes dans l'entreprise aux salariés et qui ne se voit pas. Parce que c'est fait, ça reste de la discussion. Et puis, voilà, il faut... Et ça fait du boulot en plus.
Et alors, en parlant de boulot en plus, pour peu que tu veuilles faire un tout petit peu d'autogestion, que tu veux garder les outils, les développer toi-même, que tu as les possibilités aussi techniques et au niveau des connaissances, que tu veuilles développer les trucs toi-même et que tu veuilles pas passer par des sociétés sous-traitantes, parce que je peux te dire qu'aujourd'hui, pour les CSE, quand tu es au CSE, tu reçois plein de mails de « Ah bah ouais, si vous voulez, on vous propose des sites tout faits, machin, etc. »
Ah ouais,
pour peu que tu essaies de le faire un peu proprement, nous on a essayé de faire ça, ça devient plus compliqué, ça prend énormément de temps. Et c'est la merde à organiser, forcément. Mais au moins, tu gardes la main sur le truc qui est en de gestion. Et c'est pas toujours le choix.
Alors, j'ai peut-être pas forcément tout saisi. Je sais pas si.
Alors, je vais reprendre. En gros, je vais donner simplement un exemple. En gros, disons que tu veux faire un site pour ton CSE, où tu vas bien parler.
Pour faire connaître effectivement tout ce que tu as.
Par exemple, voilà, c'est ça. Ouais. Et ben, très rapidement, si tu veux le faire toi-même, ça forcément, ça prend du temps. Tout le monde parmi les élus n'est pas forcément d'accord, à savoir que ceux qui organisent du bowling, peut-être qu'ils vont dire, bah non, on va faire ça par une société, quoi. On a du budget, on va le faire. Sauf que tu fais du budget, mais t'as pas forcément la main, c'est exactement sur ce que tu veux, et tu peux pas le faire de la façon dont tu veux, quoi. Parce qu'ils proposent des packages, hop, c'est comme ça, quoi. Donc ça prend encore plus de temps, quoi. Là, je parle d'expérience, c'est un peu ce qui nous est arrivé, nous. Et c'est compliqué de faire accepter ça par les d'en face, quoi. De notre côté.
Bah, en même temps, Dédé, il a pas que ça à foutre, hein. Il y a le bowling à s'occuper. Oui, mais c'est aussi, est-ce que c'est beaucoup plus gratifiant que je le suce le micro?
Approche-toi, là, quand tu parles dans une boîte de concert, tu parles en face. Et puis voilà.
Je suis en face, là, je suis pas plus en face que ça.
Je t'entends. C'est pour ça que je te le dis.
On m'entend. Donc, oui, parce que c'est pas gratifiant, en fait. C'est pas du travail gratifiant.
C'est ça. Ouais.
C'est pas immédiatement rentable. C'est pas immédiatement visible. Tu vois, et puis ça demande du travail.
Et puis on va pas se faire chier, quoi.
Et puis il y a l'aspect, ça te fait ça n'existe pas en fait les activités culturelles dans les entreprises. C'est tout juste pas culturel, quoi. Et le social, c'est pour des chèques vacances.
C'est du social quand même. Il y a des gens qui bouffent avec ça. Hein. C'est quand tu donnes
la marge, quoi.
Quand tu arrives à donner, c'est une fois par an ou fin d'année, 200 euros en bons.
Ouais,
tu
oui, oui,
de la bouffe, hein.
À la marge, mais c'est pas la.
Pas ça pour les smicards de juin.
c'est pas l'activité la plus qui va te rendre populaire.
Non, c'est ça.
Là, parce qu'on va retenir ça, le salarié va retenir il a organisé des soirées bowling où il fait je sais pas quoi. Et là, c'est marquant parce qu'en fait, tu vas un peu t'identifier. Faut pas croire, hein, sinon on aurait davantage de militants dans les syndicats. S'ils n'étaient pas plus intéressés par le bowling que par l'activité purement juridique, économique et salariale, enfin, qui intéresse les salariés. Donc, je crois que là, il y a un. Et là, par contre, c'est un phénomène culturel. C'est que je pense que. Je reviens sur ce que c'était dit à propos des salariés en manière générale, et je ne le répéterai pas à l'antenne, mais ouais, c'est bien triste. Mais malheureusement, c'est un constat qui est.
Il y a aussi un autre phénomène chez nous aussi, c'est le phénomène du télétravail. En fait, on se coupe aussi vraiment beaucoup, effectivement, des salariés qui pourraient nous faire remonter des informations et nous-mêmes pouvoir discuter avec eux. Et du coup, c'est vrai que cette impossibilité, effectivement, de rencontrer physiquement les gens, ça crée effectivement des impossibilités manifestes. Mais il y a aussi. Aussi, c'est vrai que ce manque de panneaux qu'on peut avoir dans les locaux et le fait que les gens soient vraiment dispatchés chez eux derrière leur ordinateur, c'est difficile effectivement de pouvoir les joindre et de pouvoir les sensibiliser sur le travail que font effectivement les élus effectivement ce va-et-vient de faire remonter les informations que les gens nous délivre, bah du coup c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Enfin, le fait d'être dispatché en télétravail, ça parcellise en fait les différentes individualités et du coup c'est vrai que ça peut aussi contrarier le message que nous on peut délivrer et la fluidité en fait des échanges.
Et ça rejoint ce qu'on disait lors de la dernière émission sur le vote électronique entre le vote physique qui quand même alors c'est à minima une petite participation, parce que c'est physique, on se regarde, on éventuellement se serre la main, on est autour de l'urne, on va dans l'isoloir.
C'est plus convivial, voilà, tu peux rigoler, tu peux t'amuser.
Et puis tu finis par être en contact avec peut-être des personnes. Là, tu peux être officiellement en contact sans que ça soit litigieux ou que ça soit, tu prennes un risque, tu es en contact avec des militants. Alors que quand tu es en télétravail, tu es en contact avec ton ordinateur.
Bah, tu connais personne, en fait, tout simplement. Mais alors, du coup, alors je parle d'expérience, du coup, je dirais que ça peut inverser un autre problème, à savoir que Dédé qui organise le bowling, on ne sait pas qui c'est, en fait, au final. Et du coup, tu votes plus trop à la tête des gens qui se présentent, mais tu vas peut-être te renseigner un peu sur ce qu'ils ont fait. Je ne sais pas, peut-être que je rêve, là, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que... Moi, j'ai vu la différence entre avant le télétravail et après le télétravail, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont aucune idée de qui est qui, en fait. Et du coup, face à deux listes, je parle au premier tour, ou trois listes, je ne sais pas combien il y a de syndicats qui se présentent, peut-être que tu peux être amené à réfléchir, à dire, putain, peut-être qu'il y a une petite différence, ou peut-être que je me renseigne sur qu'est-ce que c'est leur programme, quoi. Ça peut peut-être aider.
Alors, je dis, si tu ne t'intéresses pas aux listes, si tu t'es jamais intéressé aux listes, ni à quelles sont les sigles et qu'est-ce qu'il y a derrière, après, si tu ne t'intéresses plus aux personnes avec lesquelles tu bosses, next step, c'est quoi, quoi?
Ouais.
Là, tu vides de...
Nous, ça pose un énorme souci parce que, alors bon, là, Illumination McGuff, où on était élu, CP1 quand même, on restait quand même assez longtemps. Mais en tant qu'intermittent au spectacle, ouais, nous, on était sur des longs métrages, donc ouais, ça durait un an et demi, deux ans, voilà, ça dépend. Mais il y a des gens qui bougent tout le temps, et du coup. T'en fous, quoi. Enfin, pour peu que tu sois pas politisé, tu t'en fous de pour qui tu votes, voire tu votes pas, quoi, en fait. Puisque tu vas changer dans 15 jours, un mois, quoi.
Ben, justement, le problème qui se pose dans ma boîte, moi je travaille chez Monoprix, je dis ça pour Greg, qui n'était pas là la semaine dernière, il n'a pas écouté l'émission, je jure.
Je le ferai plus tard, après mon retard.
Non, doute pas. Donc moi je travaille dans un magasin, et là on est pour la première fois confronté au vote électronique. Et effectivement, Le risque, nous, c'est de, d'avoir des salariés qui, bah, se, puisqu'ils disent, bah, on va pas forcément être en vote physique, c'est qu'ils en aient rien à foutre et qu'ils participent pas, et que, à la limite, on est presque même pas le quorum. Là, ça foutrait bien les boules. Donc, bon, il y aura un deuxième tour, on sera tous, a priori, il y a 10 postes, on est 10 candidats, on va être tous être élus. Mais c'est vrai qu'on se pose cette question de qui va voter. C'est-à-dire, nous, en plus, on est dans un, enfin, socialement, c'est pas des gens qui sont habitués, des travailleurs qui sont habitués à l'outil informatique. Et ouais, surtout, tout le monde a des téléphones. Tout le monde sait aller sur YouTube, des conneries comme ça, mais tout le monde ne sait pas forcément utiliser les applications. Et puis, on a surtout beaucoup de salariés issus de l'immigration. Je vais être un des seuls Français maintenant chez Monoprix. Français de souche, comme on dit.
Oh,
non, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui s'est. Donc, est-ce qu'ils s'y intéressent? On a beaucoup. On a aussi quelques des étudiants qui viennent travailler alors le week-end notamment ou en soirée pour pouvoir bouffer, payer leur loyer. Effectivement, leur priorité, c'est pas de faire du syndicalisme, c'est pas de et surtout pas du syndicalisme révolutionnaire, autogestionnaire. voilà, ce qui compte, c'est leurs études, travailler, bouffer. Donc les représentants du personnel, c'est donc déjà, nous, le fait de la participation au niveau d'une manière dématérialisée, ça nous pose déjà un sacré problème. Parce que c'est pas des personnes qui sont habituées à l'outil informatique, contrairement à chez vous, où je pense qu'ils ont, il y a beaucoup plus d'aisance. Alors il y a peut-être sans doute un désintérêt de certains, mais de par leur contrat, mais ils sont quand même beaucoup plus. Tu vois, nous, il y a quand même des salariés qui nous disent, ils tirent la tronche, on va pas savoir qu'est-ce qui. Et puis on est incapable de leur répondre, parce que de toute façon, on ne nous a pas encore briefé là-dessus.
Ouais, et ça peut poser aussi un problème, parce que, et là on revient sur le thème de l'émission, ça s'est lié en fait. La fusion des IRP, c'est aussi là, un peu la confusion. C'est-à-dire qu'on était incapable.
En tout cas, ça rime.
chacun avait des difficultés à comprendre l'action et le rôle des différents IRP. Aujourd'hui, il y a une fusion. Alors, pour ceux qui se tiennent un peu au courant, voilà, il y a un partage des rôles, mais ça se fait dans une seule et même entité. Voilà, c'est pas très clair non plus. C'est fait exprès, ça dit. Hein. Mais pour ceux qui ne s'y intéressent pas, et a fortiori les travailleurs immigrés et même les étrangers européens, enfin des communes européennes, voire les étudiants qui sont fiche complètement, parce que pour toutes les raisons que tu as dites, le vote, ça n'a aucune importance. Quoi. Le vote, de toute façon, on ne sait pas pourquoi on vote, ni pour qui. Après, manque de culture, ce que tu disais tout à l'heure, l'absence de culture politique, c'est aussi un frein, je suis désolé. Et puis, on est dans une période où on dit de toute façon c'est tous des pourris, enfin je veux dire quel que soit, et on mélange tout pour semer davantage la confusion. On mélange tous les partis, les syndicats, tout ça c'est la même chose. Et on finit par avoir une espèce de, un peu comme ils ont fait pour les IRP, c'est-à-dire une chose là qui est censée représenter les salariés dans l'entreprise. Et qui, pour les, ils ne se sentent pas représentés. C'est-à-dire qu'ils ne voient pas l'intérêt de ce truc. Et on se garde bien, effectivement, de faire une véritable explication de texte. On bosse, on attend toujours l'explication de texte. Les gars, ils sont inexistants, quoi. Inexistants. Ouais, bon, pour moi, ils sont inexistants. Donc, je pense que c'est un véritable problème. Et petit à petit, on va arriver, moi, je pense, à une extinction. Une simplification à outrance de cette IRP, ou de ces IRP, il n'y en aura plus qu'un de toute façon. Et l'idée, c'est aussi d'évacuer les délégués syndicaux ou les diluants dans une espèce d'instance unique pour arriver finalement à. Bah, regardez, vous ne représentez personne, même plus. Ce que vous disiez là, pour la direction, c'est du beurre. Personne ne va voter. Mais moi, quand je suis patron, je vais dire vous voyez bien que ça ne sert à rien votre truc là. Personne ne s'y intéresse. sans aller jusqu'au bout d'une analyse un peu fouillée quand même, hein, pour savoir pour quelles raisons il n'y a pas eu de quorum atteint lors du premier tour. Ben, je crois qu'on est vraiment à un moment charnière où les lois, c'est quelque chose, enfin les assemblées qui votent les lois, les trous de balles qui sont dans les assemblées, ils font aussi un travail de sape qui est gigantesque.
Et ils sont pas aidés par les ils sont pas aidés. Si, ils sont plutôt aidés par les syndicats institutionnels, parce que je sais, ils devraient réagir. Moi, il y a un truc qui me vient à l'idée aussi qui a été introduit là récemment, c'est la parité homme-femme. C'est d'une absurdité. Mais alors, comme si dans les sections syndicales, on a déjà du mal à faire à faire adhérer des travailleurs dans les sections syndicales. Il faudrait qu'il y ait autant d'hommes que de femmes. Ben, c'est pas, non. Et puis, les mettre sur les listes, alternées. Mais on n'a pas tous les mêmes compétences. Il peut y avoir deux hommes qui ont de très bonnes compétences, ou deux femmes. Donc là, c'est plutôt des hommes. non, excusez-moi. Charles Véditeur, auditrice, je ne vous ai pas entendu. On va couper au montage.
Voilà. C'est pas du live.
Enfin, bon. Tu peux avoir deux personnes du même sexe qui sont très bons. Très bonne, c'est des personnes, mais tu es obligé d'alterner et de mettre à la limite un abruti entre les deux, sachant que tout le monde ne va pas être élu. Donc, parce que tu peux avoir plusieurs syndicats, hein, tu as des boîtes où des fois tu as 10 syndicats qui se présentent. Donc en gros, tu as les têtes de liste surtout qui vont être élus.
Ouais, mais ça, pour constituer des listes, c'est compliqué. Hein,
c'est très compliqué, donc tu peux te faire contester. C'est complètement, moi je trouve ça complètement absurde. Alors effectivement, qu'il y ait une intention de vouloir faire participer soit des hommes ou des femmes, parce qu'ils sont jamais sur des listes, d'accord. Enfin bon, moi je pense que c'est les compétences qui doivent s'exprimer et pas des sexes. Enfin tu vois, des identités sexuelles. C'est complètement, moi c'est absurde. Et pouvoir effectivement contester une liste dans un syndicat sur cette base, c'est complètement débile. Alors effectivement, les parlementaires qui ont mis ça en place, eux, ils peuvent le faire. Parce que c'est une bande d'abrutis. Et puis qu'ils ont des assistants parlementaires qui vont faire le boulot pour eux. C'est comme ça qu'on peut avoir des Marlène Schiappa, par exemple, qui est bonne à rien, mais avec des mecs qui vont bosser autour. Là, on se pose pas la question s'il y a la parité. On s'en fout. Ce qui compte, c'est qu'il y a la parité au gouvernement, il y a des hommes, des femmes, et puis des assistants parlementaires ou des petites mains qui vont faire le boulot, taper les textes, et l'autre va raconter ses conneries. Donc, il peut faire ça. Mais nous, au CE, c'est pas comme ça que ça se passe. Enfin, CSE ou dans les syndicats, c'est pas comme ça que ça se passe.
Donc, ça, c'est problématique, je suis d'accord. Enfin, ouais. Sur le fond, c'est cool qu'il y ait la parité. C'est super. Mais réellement, dans le réel, c'est compliqué à mettre en place. C'est bloquant.
Ce qui serait cool, c'est que la parité, ça ne soit pas une obligation législative, mais que ce soit au sein de nous, au sein de syndicats, se dire OK, partageons les tâches. Alors, c'est vrai, en fonction des compétences, en fonction des appétences, parce qu'on peut avoir les compétences, si à un moment donné, on n'est pas bien. On va pas se lancer dans un mandat. Enfin, faut être clair aussi. Hein. Mais on peut le proposer. Encore une fois, c'est pas. Je rejoins ce que disait Fabrice à l'instant. C'est totalement débile d'imposer parce que on n'est pas tous prêts à assumer un certain nombre de fonctions, assumer une tâche de travail sur 4 ans. Hein, et puis avoir toujours la même cadence, la même constance, la même. Et puis, il y a des moments où on a besoin de faire des pauses. Et puis, quand on sur des listes, il n'y a pas grand monde qui se met sur les listes. Hein,
toujours les mêmes, plus voilà. Ou moins qui se.
Imagine une liste où il n'y a qu'une seule personne. Parce que ça existe aussi. Elle n'existe pas parce qu'il n'y a qu'une seule personne. Il y a un truc qui ne va pas dans le. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'elle peut être contestée après tout. Il n'y a pas la parité. Hein.
Surtout que ça bloque, c'est-à-dire que si par exemple il y a 4 personnes qui se sont présentées, mais c'est que des mecs, ben voilà, il va y avoir une personne qui va être élue, c'est tout, qu'on peut présenter sur la liste, c'est tout, pas plus. Et tu fais, c'est pas un choix, enfin, de nouveau, dans le fond, c'est une bonne idée. Dans le réel, c'est très compliqué à mettre en place. S'il y avait autant de gens motivés des deux sexes, ça serait super. C'est pas forcément le cas. Aussi bien d'un côté que de l'autre, d'ailleurs.
Il y a des entreprises où il y a plus de femmes que d'hommes.
Bien évidemment, voilà, c'est ça. C'est pour ça. C'est...
Dans le commerce. Hein.
Et ça aussi, voilà, tout bêtement. Des entreprises où tu es à 85% de, je pense, dans la sidérurgie, où c'est aujourd'hui moins, mais moi j'y ai bossé, il y avait 100% de mecs. Hein. Tu fais quoi ? Si tu fais la parité aujourd'hui, tu fais, bah non, vous ne serez pas élus, les gars. Tant pis, il n'y aura pas de CSE. Allez, salut, à dans 4 ans. Tout va bien.
Recruter c'est mieux, quoi.
Ouais, voilà. À la limite, mais même recruter. Si tu vas recruter, tu as des CV de personnes à compétences égales. Si, parce que ça doit arriver. Faut arrêter d'avoir ce discours de, un peu naïf, je pense. Si tu reçois que des CV de mecs sur un poste, tu le prends pas parce que tu as besoin de faire la parité. Et tu fais tourner ton bouclard comment ? Toi, c'est la. Moi, je suis patron. Bah, ce que je veux, c'est que ça fonctionne, quoi. Après, si c'est un homme, une femme, ok, c'est une fois que j'ai les deux identiques avec le même passif, les mêmes qualités techniques, le même CV, etc. Ok, je peux faire un choix, mais parfois t'as pas le choix. T'as des trucs que c'est le seul. Tu vois, c'est le seul mec. Et Raoul, c'est le seul mec, le seul CV compétent. Et je vais pas plomber ma boîte pour parce que je vais prendre une dame qui connaît rien au boulot, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ou qui a pas du tout les compétences. Ça aussi, c'est pour ça que je rejoins, c'est d'une absurdité. Mmh. Ça, c'est vraiment un truc de politicard, en fait. De politicard, de la bien-pensance. Et ça me fait royalement
chier.
Eh ouais. Mmh. Voilà.
Alors, il y a un autre truc aussi pour les élections, parce que là, je vois qu'il est 49 et qu'on se dirige vers la fin de l'émission, il reste 10 minutes. C'est aussi l'impossibilité de... Enfin, l'impossibilité de faire plus de 3 mandats.
Tu fais une pause entre deux, ouais. T'es ouais. Obligé de t'arrêter un coup et refaire après. Alors, honnêtement, dans l'autre sens.
Alors, il y a eu. Alors,
parce que des indécrottables que tu peux pas sortir, qui se font toujours élire en faisant des bowling, je peux dire, t'es content quand ils font une pause. Voilà, le fameux dés. Mais d'autant plus que ce qu'il faut pas oublier, c'est que lorsqu'on est passé du CE au CSE, tac, on a remis l'horloge à zéro. Et tu pouvais, donc t'as pu enchaîner 3 CE. Par exemple, et réenchaîner derrière 3 CSE.
Carrière longue.
Ouais, au bout d'un moment, t'es content qu'en fait.
J'enchaîne depuis les années 2000. Hein.
Ouais, mais t'es un gars bien, toi. Moi, je te parle de Dédé.
Si je suis. Son pseudo, c'est Stakhanov.
Effectivement, tu peux trouver. Mais alors, comme on disait c'est tout à l'heure, quand Eric parlait, c'est souvent les mêmes qui se représentent. Et malheureusement, on n'a pas tous les mêmes compétences, donc c'est bien que ce soit ceux qui ont un peu de compétences qui puissent se représenter. Bon, c'est vrai que là, moi je suis dans une boîte où on se dirige plutôt vers la retraite, mais. Mais n'empêche que. Alors, moi, ça pose un problème au niveau de la démocratie et des libertés syndicales. Parce que si effectivement tu ne peux pas librement te représenter, parce qu'on a dit qu'il y avait une loi qui disait que tu ne peux pas faire plus de 3 mandats, moi ça me pose un problème quand même. Mmh. Problème éthique. Alors c'est vrai qu'il y a eu un décret entre-temps qui a introduit le fait que on peut déroger à ça, ça peut être une manière. Mais les abrutis de ma boîte, les délégués syndicales abrutis, mais je vous dis vraiment abrutis, il y en a encore une qui est en activité, mais les deux autres sont partis à la retraite, elles ne sont pas posées de questions, on va faire plaisir à la direction, mais ils n'ont pas eu connaissance du droit, ils ne sont pas allés voir leur syndicat pour savoir s'il y avait quelque chose à faire, ils se sont dit, hop, pas plus de 3 mandats, ping. Alors que le décret était déjà sorti entre-temps, moi j'ai dénoncé par des tracts, personne ne s'en souvient, même on s'en fout, mais ça me pose un problème éthique quand même.
Ah ben c'est anti-syndical. Enfin je veux dire.
Après, de toute façon, toutes ces lois de merde qui ont été faites pour restreindre le syndicalisme, ce sont des lois anti-syndicales. Hein. C'est pas faire d'illusions. On a bien compris. Monsieur Macron, Monsieur Hollande avant, Monsieur Sarkozy, on a bien compris que vous nous aimiez pas. Mais c'est réciproque.
Et d'ailleurs, il s'agit de dénoncer aussi la terminologie de partenaire social. C'est un truc que je supporte plus. Depuis longtemps. Hein. Mais là, il faut que je le dise, c'est une haine. Parce que je ne suis pas un partenaire social.
Non, je ne suis pas un partenaire social.
Je suis un syndicaliste, et puis ça s'arrête là. Quoi. Je suis un salarié aussi, un travailleur. Enfin, voilà, des mots qui me parlent un peu. Quoi. Mais je ne suis pas un partenaire non, de rien. Quoi. Surtout pas social.
La neuve langue.
Ouais, bah, tu vois, ça aussi, c'est un autre... Bah, tu vois, ils attaquent par plusieurs biais. On a parlé de les manifs dans la rue, on prenait des coups parce que c'était commandé, hein, sinon on n'aurait pas été battu comme plâtre à ce point-là. Dans les entreprises où on te fait un boogie-boogie-boogie-boogie de CSE qui rime à rien et où tout le monde se perd. Et puis là, la novlangue, enfin je veux dire, à chaque fois, ils entrent en fait par tous les biais. Les patrons entrent par tous les biais avec leur copain parlementaire. Donc il faut attaquer par tous les biais, voilà. Ou contre-attaquer, je sais pas.
Et ben,
c'est compliqué. Non mais je suis d'accord avec lui. Et quand pour la novlangue, quand tu tues le mot, tu tues l'idée après. Tout bêtement. Mmh. Mmh.
Bien si. Foutu un coup à Greg.
Assommé
là.
Non, mais c'est vrai que c'est compliqué. Ça, tout devient de plus en plus compliqué, en effet, je suis d'accord. Après, bon, comme je te disais, pour le fait de. Pour le côté syndicaliste, en effet, je suis d'accord avec toi sur le pas pouvoir faire plus de 3 mandats. Ça force à ce qu'il y ait d'autres gens qui se représentent, mais je vois bien, moi, dans le réel, que c'est compliqué de recruter des gens pour une liste. Donc, je comprends tout à fait ton désarroi là-dessus.
Ah, puis, alors, constituer des listes. À la limite, c'est pas compliqué. Hein. Tu demandes à des personnes. Ça, dans ma boîte, ça se fait un petit peu comme ça. Hein. De manière générale, je ne dis pas que tout le monde est comme ça, mais tu viens sur la liste. Alors, tu as ceux qui sont syndiqués. Et puis, tu te dis, bah, viens compléter la liste. Donc, ça, tu peux le faire, ça. Ouais, je peux le faire. Mais que quand tu es sur une liste CNT,
voilà.
Et ben, je parle pour moi, et que. Alors, déjà, ceux qui sont adhérents, je ne suis pas certain qu'ils vraiment. Qui sont, je pense à une notamment, je ne suis pas certain qu'elles comprennent bien ce que c'est que la CNT, l'autogestion et puis le syndicalisme révolutionnaire. Bah, faire venir du monde comme ça, justement, pour qu'il puisse y avoir alternance, parité, et puis faire du nombre. Et puis après, une fois que tu es élu, il n'y a rien qui se passe parce que les autres, ils sont là. Bah, moi, je suis venu pour te faire plaisir. Ça pose problème quand même.
Nous, ça pose
et
encore.
Puis, et puis surtout de pouvoir d'agir au nom d'une étiquette syndicale que tu comprends pas. Donc c'est pour ça que moi les listes elles sont pas complètes. Hein, on n'est que deux. Et même je serais tout seul, ça serait au moins je pourrais dire là c'est un syndicaliste révolutionnaire. Là on est deux. Alors, ça va, il y a un homme, une femme. Mais c'est déjà il y a la parité. Non mais. Mais bon, on n'a pas les mêmes compétences, hein, je peux te le dire. Et
comme tu y vas.
Oh, mais c'est peut-être moi qui ne l'ai pas, les compétences. Mais ouais, alors bah, tiens, justement, on estime, avec un autre syndicat hein, de ma boîte, on estime que la direction a monté une liste patronale. Ah ouais, alors là, ils ont rempli tous les. Alors il y a cadres et puis employés sur la même liste, hein, c'est les seuls qui ont des cadres, c'est leur, qui vont être élus les cadres, hein, puisque c'est la direction qui a dit toi tu es une fille, tu te mets là, toi tu es le garçon, tu te mets là, et puis aux autres vous votez pour ça. Voilà, mais... c'est un petit peu comme ça que ça se passe, et puis la liste employée c'est pareil. Hein,
on en revient à ce qu'on disait la semaine dernière avec les gens qui sont là pour faire de la carrière. Pour la petite anecdote, je rebondis sur ce que tu disais, pour créer des listes, c'est compliqué quand tu es intermittent du spectacle, par exemple, pour être sur une liste CNT. Et par contre, pour la petite anecdote, parce que toi, tu parlais des cadres, ce qui est génial, c'est qu'ils ont fait une connerie dans notre convention collective, et il y a tout un groupe de gens, je dirais, qui est devenu cadre chez nous, qui n'était pas cadre. Greg est cadre, par exemple, il n'était pas cadre avant, ah, il est cadre d'un coup.
Ah ouais, c'était pour une erreur en fait dactylo en fait sur un imprimé légal. Alors je sais plus lequel
c'est au niveau de la convention collective.
Effectivement.
Et ouais. Du coup, tu as tout un pan de gens qui sont cadres aujourd'hui et qui peuvent voter pour la CNT du coup. Du coup, là, c'est pas si mal de notre côté.
En tout cas, ce qui est vraiment surprenant dans notre domaine d'activité, qui est l'animation, effectivement, c'est que on réussit à trouver des gens pour les listes, et on trouve aussi beaucoup de personnes qui votent pour la liste CNT. On pourrait croire que ça pourrait éventuellement faire peur. syndicalisme révolutionnaire, mais du coup, en fait, il y a une ça abonde en fait dans notre sens. Il y a quand même des scores qui sont quand même assez élevés. 45%.
La dernière fois, ça s'est fait à 30 voix près. Sachant qu'on était, je sais pas, un truc genre 900 personnes dans l'entreprise. Donc 30 voix près, c'est rien. Et on n'avait pas beaucoup de cadres parce qu'il n'y avait pas encore la convention collective changée à ce moment-là. Là, cette année, on va voir. Notre mandat, Greg et moi, se finit là en fin de mois. Il va y avoir les nouvelles élections. On va voir ce que ça va donner. J'ai hâte de savoir.
Bah, vous allez pouvoir revenir alors.
Et d'ailleurs, il m'a dit qu'il revenait quand
la semaine prochaine. C'est ça. La semaine prochaine.
On peut.
Non, mais c'est vrai que c'est. Par contre, un débrief post-élection.
Ah bon, je vous envoie le Cédric. Il est. Moi, je suis.
Il peut pas. Il est pas libre.
Vous revenez.
Vous êtes obligé de revenir. Ben, il pourra pas.
Je suis plus sur la liste.
Et moi, je suis plus sur la liste. Mais oui, on pourra. Mais on vous donnera les infos. Par contre,
on invente au fur et à mesure. De toute façon, en fait, ils croient quoi. Les auditeurs, ils croient que c'est des hommes qui parlent. Et non, je suis une femme. Ah oui, il y a quoi grave.
Une intelligence artificielle.
Artificielle.
Intelligence, c'est autre chose. Bon, on va bientôt. Il y a le chat qui a miaulé. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Moi, je l'ai entendu dans le casque. Il a miaulé. Ça veut dire qu'on arrive à la fin de l'émission. Avant de lancer le générique, je remercie Vincent, Greg, Eric. Je te remercie pas. T'es encore arrivé en retard. Merci Bénédicte d'avoir fait la technique. Mais avant tout ça, une réunion publique contre le service national universel, le SNU, voilà, se tiendra le 18 novembre 2023 de 14h30 à 17h30 à la Bourse du Travail, dans la grande salle Croizat, aux 3 rues du Château d'Eau, à Paris, dans le 10e, avec table d'infos, débats, outils, perspectives d'action. C'est organisé par qui ? Du collectif non SNU, région parisienne.
C'est ça.
Voilà.
C'est ça.
Bon. Il n'y a pas de...
Collectif anti-SNU.
Voilà.
SNU.
Bon, on vous invite à y aller. C'est le 18 novembre. C'est juste après le 11 novembre.
Ah oui, c'est universel, c'est prétentieux quand même. C'est macronien.
Et on avait arrêté le service militaire. Bon, ben non, on fait le SNU. Pour les garçons et les filles. Hein ?
Un truc que j'ai appris là, à propos du Parité. SNU, c'est que si tu fais le SNU, tu gagnes des points après pour Parcoursup pour pouvoir choper une université sympa.
Un peu
c'est
comme,
fou. Hein. Ça se mord la queue.
Classification chinoise pour les bons citoyens, un truc comme ça.
Ouais, voilà, il y a du point social, ouais, c'est ça. Ouais.
Ouais, c'est intéressant. En tout cas, les militaires reviennent. La petite porte.
En ce moment, c'est un peu la mode hein, d'avoir des militaires. On en parle pas mal des militaires, hein, que ce soit en Ukraine, la bande de Gaza, des trucs. On voit que ça peut peut-être développer des vocations. Je ne sais pas. Pas des bonnes.
Ah, mais il y a les pubs, il y a plein de trucs dans la rue.
On exactement.
On a intérêt de faire.
Viens faire un métier pour faire changer des choses, etc.
Voilà.
Le ministère
samedi
de la
18
défense.
Novembre, 14h30, 17h30, à la Bourse du Travail, 3 rue du Château d'Eau, dans le 10e. Voilà.
Eh ben oui, c'est important.
Allez-y,
ça.
Voilà, CNT vous conseille.
Les intermittents. Enfin, il y aura aussi bientôt normalement des mouvements intermittents.
Ah oui, il y en a tout le temps. Ouais.
Alors, j'ai pas les dates, malheureusement, mais je crois que c'est cette semaine.
Des mouvements intermittents ou des mouvements d'intermittents ?
Les deux.
Ouais,
par définition.
Parce que nos amis des différentes chambres veulent réformer un peu le statut intermittent encore.
Ouais, ils veulent juste gratter 15%, tranquille, sur l'assurance chômage.
Bon, bah, notre technicienne va nous mettre le générique de fin. Elle n'écoute plus, là. Et avec Jean-Manuel, d'Emus s'amuse. Venez-nous le générique de fin. Et puis, je remercie encore Greg, Vincent, Eric, Bénédicte, et chers les auditeurs, les auditrices. Et à dans 15 jours, avec Greg et Vincent.
Oui. Ça y est, la pression, elle revient.
Nous réagissons, l'idéal libertaire.
Car moi, je veux.
C'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet.
Vive la révolution.
Oh. un, je goûte à menthe. Et maintes fois un vin amer, où des garces aux lèvres peintes ont torché leur bouche d'enfer. Et voici mon âme plus grise, des mêmes souillures, hélas, que le plastron de ma chemise, gris, rose et lilas. Ma pauvre mère est en lessive. Maman, 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 ton mauvais gars arrive au bon moment. Au fond du cuvier où l'on sème, parmi l'eau, la cendre du four, que tout mon linge de bohème repose durant tout un jour. Et qu'enfin mon âme pareille à ce déballage attristant, parmi ton âme, ô bonne vieille, repose un instant. Ma pauvre mère est en lessive. Maman, 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 ton mauvais gars arrive au bon moment. Tout comme le linge confie sa honte à la douceur de l'eau, quand je t'aurai conté ma vie malheureuse d'affreux salaud. Ainsi qu'on rince à la fontaine le linge au sortir du cuvier, mère, arrose mon âme en peine d'un peu de pitié. Et lorsque tu viendras étendre le linge d'iris parfumé tout blanc parmi la blancheur tendre de la haie où fleurit le mai, je veux voir mon âme encore pure, en dépit de son long sommeil, dans la douleur et dans l'ordure, revivre au soleil. Ma pauvre mère est en lessive. Maman, 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 ton mauvais gars arrive au bon moment.
Ce que je vois, mes pellicules sont les pages quadrillées d'un bloc rhodia. Les paysages sur des diapos, c'est du plastique sur la beauté. J'aime entourer de mes mots ce que mes yeux ont regardé. Pas de portrait, pas de gros plan, pas de format mat tout brillant. Juste un regard, un sentiment qui laisse sa place au suivant. Il est rare que l'on se souvienne dans le cas.